Matthieu 19.
Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. » Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. »
Avant de se pencher sur les Écritures et d'aller dans un mot de prière, juste vous mentionner qu'on a passé des super belles vacances. T'es béni les îles de la Madeleine. Est-ce que Jean-Pierre Mainville est ici ce matin? Jean-Pierre puis Louise, non? Les îles de la Madeleine, c'était génial. On a vraiment été béni, beaucoup de repos. Pendant que vous aviez la canicule, ici, nous autres, on était aux îles de la Madeleine à 23-24, le petit vent chaud. Les plages, 16 km de plage. On a loué une petite maison là-bas avec mes parents, avec ma mère. Donc, ça a été vraiment des belles vacances, vraiment un temps de repos béni. Je suis aussi encouragé en revenant d'avoir quelques bonnes nouvelles. Hélène Lapointe, on priait pour ça. Elle rencontrait son oncologue jeudi. Elle a eu de bonnes nouvelles. Il n'y aura pas de traitement de chimio. Alors ça, c'est vraiment une belle réponse aux prières. Je sais que l'opération de Rosely aussi pour le cœur s'est bien passée. Donc, j'ai eu quelques bonnes nouvelles comme ça. Dieu est en train de faire des belles choses et bénir des gens dans l'Assemblée. Il y a Laurent Guano. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Le petit Guano est arrivé au monde jeudi soir à 11h quelques. Vous aurez l'occasion de voir des photos un petit peu d'avance, je pense, 12 jours d'avance, quelque chose comme ça, là. Mais ça s'est bien passé à ce qui semble. Un beau bonhomme. Un autre garçon pour arracher les murs dans cette maison-là. Donc, Dieu fait des belles choses. Dieu est en train de faire des belles choses. Puis, je suis excité. Danny a commencé il y a 2 semaines. Danny Gosselin, comme adjoint administratif. Et donc, moi, j'ai commencé mardi matin. C'était mon retour de vacances. On travaille ensemble au bureau. C'est très excitant de voir les belles choses qui s'en viennent dans l'année. On va avoir l'occasion de vous en parler dans les prochaines semaines. Ce soir, on a une réunion du Conseil des anciens pour travailler sur différentes choses importantes dans l'année. Et on va pouvoir vous parler de ces choses-là au cours des prochaines semaines. Mais je suis béni de revenir au milieu de la famille. C'est drôle. J'ai passé toutes mes vacances avec ma famille physique. Mon père habite à Lillet, lorsqu'on s'en va vers Rivière-du-Loup. Mon frère est à Rivière-du-Loup, en train d'implanter une église là-bas. Donc, lorsqu'on s'en va à Rivière-du-Loup, sur notre chemin, mon père est là, on est allé le voir. J'ai passé une semaine avec mon frère. Jonathan et Judith sont venus avec nous une autre semaine. On a passé du temps avec ma mère. Donc, j'étais en famille. On était en famille tout le long. Et pourtant, même si je m'entends tellement bien avec ma famille, puis on est proches, revenir au milieu de la famille de Dieu, c'est quelque chose de particulier. Et tout à l'heure, on est en train de louer le Seigneur. Et spécialement ce matin, Élie puis Claudia, là, c'était super. Il y avait un mariage au niveau des instruments. C'était vraiment génial. Et tout à l'heure, j'écoutais les louanges, puis je louais le Seigneur, puis je pensais à notre centre d'achat qui a tellement de l'air de rien. Vous savez, lorsqu'on était là-bas aux îles de la Madeleine, quand tu arrives sur le chemin principal de l'île principale, il y a une espèce de cathédrale en bois qui est fantastique. Ça a l'air d'une fusée. Et vraiment, vraiment belle, ça te frappe. J'ai jamais vu cette architecture-là pour une église catholique. Vraiment belle. Et tout le long, à ce temps, puis moi, on s'est dit, il faut aller la visiter, puis j'ai pris des photos, tout ça. Est-ce que vous me recevez? 1, 2, 1, 2. Est-ce que je prends l'autre micro, John? Houston. Apollo 13, hein, ça a été difficile. Est-ce que j'y vais avec les deux ou juste avec mon...
Un. J'y vais avec l'autre en attendant?
Super belle cathédrale. Oh, vous ne m'entendez pas plus. Oui, là, vous m'entendez. Super belle cathédrale aux îles de la Madeleine. C'était frappant, c'était vraiment beau. J'aime l'architecture. Puis tout à l'heure, on est en train de louer Dieu ici dans notre petit centre d'achat. Je veux dire, tu passes ici, tu ne penserais jamais qu'il y a des enfants de Dieu qui sont en train de louer le Seigneur et que Dieu est en train d'habiter au milieu de leur louange. C'est ce que sa parole nous dit. Et tout à l'heure, on était en train de louer, puis je disais au Seigneur, ici, en ce moment, c'est ça qu'il y a de plus beau sur la terre. Un peu partout sur la terre, tes enfants qui sont rassemblés n'importe où, dans n'importe quel contexte, mais en train d'élever tes louanges, d'élever et de glorifier Jésus-Christ. C'est ça qu'il y a de plus beau sur la terre. Amen. Ça fait du bien. Ça fait du bien de revenir à la maison. On va aller ensemble dans un mot de prière. Est-ce que, John, je reste avec ça? Pour l'instant, oui? OK, vous me ferez signe. On va aller dans la prière ensemble. Eh bien, Père éternel, quelle grâce de se retrouver au milieu de ton peuple ce matin pour élever tes louanges, pour élever le nom de Jésus-Christ dans nos cœurs, pour se rencontrer les uns les autres et se soutenir, se supporter les uns les autres, partager nos épreuves et nos bénédictions. Quelle grâce, Seigneur, ce matin de venir pencher les regards sur ta parole, pour écouter ce que ton esprit a à nous dire. Seigneur, nous aimerions ce matin te présenter cette année qui commence sous peu avec le retour en classe de nos enfants. Le rythme de l'été avec les enfants en congé était différent, Seigneur. Plusieurs d'entre nous avions un peu plus de temps pour nous arrêter, te louer, prendre le temps de nous reposer, laisser le stress diminuer. Ma prière, Père, c'est que tu... nous garde de t'oublier dans les prochaines semaines. Alors que le rythme avec l'école, avec souvent l'emploi qui prend une autre cadence, alors que le rythme va augmenter, garde-nous près de ton cœur, Seigneur. Reste bien au centre de notre vie, Seigneur. Garde nos yeux fixés sur toi. Nous voulons, Père, t'amener nos enfants, jeunes et moins jeunes, nos petits-enfants, qui retournent sur leur champ missionnaire. Certains d'entre eux sont allés dans des camps chrétiens cet été, ont fait une mise au point, ont décidé de te remettre à nouveau leur vie, de faire un peu de ménage, de retirer les idoles de leur cœur. Mais là, cette semaine, la semaine prochaine, ils retournent, Seigneur, dans ce champ missionnaire vers des amis qu'ils aiment tellement, mais qui souvent ne te connaissent pas, Seigneur. Le combat spirituel va recommencer pour eux. Garde-les, Seigneur. Garde-les près de toi. Qu'ils soient cette lumière sur cette montagne, Seigneur. Ce sel qui vient donner de la saveur à ce monde qui en manque tellement. Protège-les, Seigneur, des ruses de l'ennemi qui va vouloir les attirer avec toutes sortes de passions de la jeunesse. Mais au contraire, que tu sois leur passion, Seigneur. Père Céleste, il y a des rumeurs d'élections qui s'en viennent cet automne. Nous voulons t'amener ces autorités. Paul nous dit que c'est toi qui les as mis en place et que nous devons les honorer, les respecter, prier pour eux. Père, mets ta main sur ce pays de paix. Qu'il prospère, Seigneur. Nous voulons chercher le bien de la ville où nous habitons. Et Seigneur, notre prière, c'est que tu diriges toute autorité civile au-dessus de nous, afin que nos libertés nous soient gardées, que nous puissions t'adorer, te servir, vivre à la lumière de ta parole, en toute liberté et annoncer Jésus-Christ, Seigneur. Montre-nous comment faire du bien à cette ville où tu nous as placés cette année. Seigneur, j'aimerais t'amener les finances de l'Église et nos finances personnelles. Certains d'entre nous ont perdu leur emploi avec la récession pendant l'année. D'autres sont dans des moments de transition, d'adaptation. Certains ont des défis financiers énormes à relever. Et certainement ton Église, Seigneur, a un défi à relever. Mais Père, nous ne voulons pas que ces choses nous distraient de toi. Nous voulons avancer par la foi, Seigneur, sachant que tu pourvoiras à tout ce qui est nécessaire. Viens, Seigneur, mets ta main sur ces choses. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Pourvois nos besoins, Seigneur, comme tu sais si bien le faire. Pour notre part, nous servirons l'Éternel. Nous servirons ton nom. Nous proclamerons Jésus-Christ. Père, sois avec ceux qui sont retenus à la maison par la maladie, qui n'ont pas pu venir ici, comme Rosely peut-être, qui est en convalescence, ou Mme Martin, plusieurs autres. Console-les ce matin. Que ton peuple, que ta famille, Seigneur, les entoure cette semaine. Que nous soyons là pour eux par un téléphone, une visite, mais qu'ils perçoivent ton amour, Christ. Enfin, Père, viens nous rencontrer ce matin. Viens nous rencontrer dans ta parole. Parle-nous. Sois avec ton serviteur, Seigneur. J'ai tant besoin de ta grâce pour prêcher ta parole avec toute la puissance de ton Esprit Saint. Alors que ce soit toi, Seigneur, qui parais ce matin, et non moi ni ma vie, car je suis faible, Seigneur, et pécheur. Couvre-moi par le sang de Christ et viens nous rencontrer. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Lequel? Celui-là? L'autre? 1, 2, 1, 2. Matthieu 19, est-ce que vous m'entendez? Moi, je m'entends. C'est bon signe, c'est déjà un début. Matthieu 19, le jeune homme riche. Marc nous parle de ce récit, Luc aussi. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, c'est pas toujours tous les évangiles qui nous rapportent tous les événements. Mais ce récit-là nous est rapporté dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc aussi. Puis en fait, on pourrait résumer le personnage qu'on a ici comme un bon gars. On dit ça au Québec? Dans le fond, c'est l'histoire d'un bon gars. C'est vraiment ça. Il fait plein de bonnes choses dans sa vie. Il a une vie rangée. Il a une vie équilibrée. Lorsque Jésus lui dit d'observer tous les commandements, je pense qu'il est sincère parce que l'évangile de Marc nous dit que Jésus l'aima. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un jeu. Mais il répond à Jésus en disant, je fais tout ça. Si on essaie de mettre ça un petit peu plus concrètement, lorsqu'il répond à Jésus en disant qu'il fait tout cela, ben, ça veut dire que ce n'est pas un homme violent. Tu ne tueras point. Un homme probablement pacifique. Et fidèle à la femme de sa vie. Tu ne commettras point d'adultère. Un bon gars. Il ne vole pas, ni son employeur, ni son voisin, ni le fisc ou l'impôt. Lorsqu'il sort d'un magasin, il se rend compte que la caissière a oublié de le facturer pour un item. Rentre en dedans, il dit, « Oh, excusez-moi, madame, vous allez avoir un problème à la fin de la journée. Il manque quelque chose à me facturer ici. » Il ne fait pas de commérage, il n'essaie pas de salir un collègue de travail au bureau ou bien le boss parce qu'il n'est pas capable de le sentir. Respecte ses parents, écoute leurs conseils, même lorsqu'il n'est pas d'accord. Prends soin d'eux lorsqu'ils vieillissent, prends des nouvelles, est aux petits soins avec ses parents. Il aime son prochain, donc on peut imaginer peut-être qu'il fait du bénévolat. Il est impliqué dans des œuvres de charité. Lorsqu'il y a l'occasion d'aider quelqu'un qui est mal pris, tout de suite, il est le premier à s'élancer pour pouvoir aller aider quelqu'un qui est dans une mauvaise posture. On pourrait dire qu'il a comme philosophie de vie d'améliorer le petit bout de planète où Dieu l'a placé. C'est comme ça qu'il voit la vie. C'est un bon gars. Et vous connaissez des bons gars, des bonnes filles autour de vous, dans votre entourage, des collègues de bureau, des amis, des voisins, des cousins, des oncles, des tantes, des gens autour de vous. Ce sont des bonnes personnes dans le sens qu'elles ont de bons principes. Vous savez, ils s'efforcent de respecter les gens autour d'eux. Peut-être qu'ils sont timides, peut-être qu'ils sont exaltés, d'accord? Je ne parle pas de personnalité ici. Je ne parle pas de celui qui amène le party à chaque fois qu'il est dans une pièce. Ce n'est pas ça que je parle. Ça peut être des gens extrêmement timides, mais ils ont des principes. Ils peuvent être très exaltés aussi. Ce sont des gens de principe qui font du bien autour d'eux. Ce gars-là était une personne comme ça. C'était un bon gars. Même, je vous dirais que celui-ci était un peu au-dessus de la moyenne. Il était un peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on trouve en général ici. Voyez-vous, celui-là allait à l'église toutes les semaines. D'accord, c'est un juif, donc il allait probablement soit à Jérusalem ou à la synagogue, à l'assemblée des juifs, à l'église. Il allait à l'église toutes les semaines, faisait ses prières. Alors non seulement c'était un bon citoyen, un bon fils, un bon voisin, mais en plus de cela, il y avait une conscience religieuse, un certain respect pour Dieu. Au-dessus de la moyenne. Non seulement il cherchait à être en paix avec les gens autour de lui, mais il cherchait aussi à être en paix avec Dieu. Ça, au Québec, c'est un petit peu moins évident de nos jours. Des bons gars, des bonnes filles comme ça, on en rencontre un peu moins. Vous avez des gens autour de vous qui sont des bonnes personnes dans le sens qu'ils ont des principes de vie. Et puis, ils s'efforcent de faire du bien à leur voisinage, à leur entourage. Le mot-clé au Québec, ces années-ci, c'est le respect. Ce sont des gens respectueux. D'accord? Mais peut-être que Dieu n'est pas dans leur radar. Peut-être que Dieu n'est pas une priorité pour eux dans leur vie à ce moment-ci. Ce jeune homme allait un petit peu plus loin que la moyenne des Québécois, on pourrait dire. Et remarquez que c'est malgré le fait qu'il était jeune. Il est d'autant plus honorable qui nous est précisé qu'il était jeune. C'est tellement facile dans ta jeunesse de te dire, ces questions-là, c'est pour plus tard. Là, c'est le temps de vivre. Quand je serai un grabataire, je me préparerai pour traverser. Mais lui, dans sa jeunesse, et malgré ses moyens financiers, avait une conscience religieuse. Il avait un respect pour Dieu. Chapeau. C'est quelqu'un de spécial. Et il y en a encore au Québec, des gens comme ça. Des bons gars, des bonnes filles qui ont une conscience religieuse, un respect pour Dieu. Peut-être qu'ils vont dans une mosquée. Peut-être qu'ils vont dans une salle du royaume. Peut-être qu'ils vont dans une église catholique. Peut-être qu'ils sont dans une église évangélique ce matin, comme vous, comme moi. Conscience religieuse, vouloir bien faire. C'est certain qu'il y a plein de bons gars et plein de bonnes filles ici ce matin. Pensez-y, vous vous êtes levé puis vous êtes dans une église le dimanche matin. Ce n'est pas à ça que ça sert le dimanche matin. Quelque chose que vous n'avez pas compris. Le dimanche matin, c'est pour rattraper ta première journée de congé quand il n'y a plus le samedi. Puis ça s'adonne qu'il commence à faire beau, ça ne vous tente pas de partir? Et vous êtes dans une église ce matin. Il y a plein de bons gars puis plein de bonnes filles ici. T'es en train de dire plein de choses sur votre vie, ça. Ah, c'est sûr que ce matin, ici, il y a plein de bons gars, puis il y a plein de bonnes filles qui sont ici et qui ont des principes. Vous êtes des gens de principe, c'est certain. Mais voilà, ce jeune homme, qui était quelqu'un de sympathique, qui avait une conscience religieuse, mais comme il se préoccupait des questions religieuses, avait encore une question sur son cœur. Est-ce qu'il en faisait assez? Voyez, lui était juif. En fait, un autre texte nous dit même que c'était un des chefs religieux. Alors, il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait les commandements de Dieu. En toute bonne conscience, il s'appliquait à respecter les commandements de Dieu, à faire le bien. Mais comme c'est fréquent chez bien des gens qui ont une conscience religieuse, il restait un doute dans son esprit. Il se demandait s'il en faisait assez, si c'était suffisant. Lisait les Écritures, fouillait les Écritures pour savoir qu'est-ce qu'un homme bien devrait être en train de faire, s'appliquer à le faire, mais il restait un doute dans son cœur. Est-ce que c'est assez? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce suffisant? Et on le voit souvent avec des gens qui ont une conscience religieuse. Il y a ce désir de plaire et ce questionnement-là qui reste aussi en même temps. Est-ce que j'en fais assez? Enfin, ce jeune homme va vers Jésus et lui pose la question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Mais Jésus lui répond simplement, observe les commandements. Oui, mais encore, ça je le fais. Lequel? Quel commandement? Vous voyez son inquiétude? Il connaît l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y en a un que ce serait vraiment important que je n'ai pas oublié, qui pourrait me sécuriser quelque chose? Parce que je ne voudrais pas, après tous ces efforts, passer à côté, ne pas rencontrer Dieu parce que j'aurais manqué quelque chose de fondamental. Alors, lesquels? Il demande à Jésus. Jésus lui répond, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, comme je l'ai mentionné tantôt, ce récit, cet événement nous est rapporté dans Marc et dans Luc aussi. Et ce qui est intéressant, des fois, lorsque c'est rapporté dans les autres évangiles, des fois, on a d'autres détails qui nous sont donnés. En l'occurrence, Marc, l'évangéliste, dans son évangile, parle plus souvent des sentiments de Jésus que Matthieu le fait. Matthieu souvent passe un petit peu à côté de ça. Puis si vous voulez savoir, est-ce qu'on a un hint là, sur ce qui se passait dans le cœur de Jésus à ce moment-là, des fois c'est Marc qui va nous les donner. Alors dans son évangile, voici ce que Marc nous raconte. Après que Jésus eut énuméré les commandements au jeune homme, tu ne tueras point, tu commettras point d'adultère, etc. Le jeune homme répond, c'est ce que Marc nous dit, « Maître, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. » Et Marc continue en disant, « Jésus l'ayant regardé, l'aima. » Il lui dit, « Il te manque encore une chose. » Jésus l'ayant regardé, l'aima. Je fais juste une parenthèse, d'accord? Mais Jésus est comme ça. Dans quelques instants, Jésus va dévoiler à ce jeune homme, il va lui révéler son propre cœur. Il va placer un test devant lui et peut-être qu'on va découvrir ensemble que cet homme n'était pas rendu là où il pensait qu'il était rendu. Jésus sait ces choses-là. Souvent, les évangélistes nous le disent. Jésus connaissait son cœur. C'est pour ça qu'il était tellement à point dans ses interventions. Jésus sait cela, il sait que ce jeune homme est attaché à ses richesses, et pourtant il le trouve sympathique. Jésus le regarde, et lui, ce qu'il voit, c'est un jeune homme qui cherche Dieu. Imparfaitement, avec des motifs tordus, pas un cœur entièrement consacré, on va le voir. Mais pourtant, il voit un jeune homme qui cherche Dieu, et Marc prend le temps de nous dire que Jésus l'aima. Jésus est comme ça. Peu importe là où vous êtes rendu dans votre cheminement avec Christ, que vous soyez encore comme ce jeune homme qui est en train d'observer, qui pose des questions, qui n'a pas pris la décision nécessairement de suivre Jésus-Christ. Jésus est accueillant. Il est sympathique aux démarches de notre cœur. Jésus ne s'est pas moqué de lui. Est-ce que vous voyez qu'il va le narguer? Je le trouve infiniment respectueux. Ce n'est pas sa relation avec les pharisiens qui l'attaquaient agressivement. Non, il voit un jeune homme qui cherche, qui pose des questions, et Jésus l'accueille avec affection. Jésus est comme ça. que ce soit lorsque je vis des troubles dans ma foi, des difficultés dans ma foi, lorsque je vais vers Christ dans la prière vers Jésus-Christ, c'est ce regard-là qu'il pose sur moi. Jésus est vraiment le reflet de Dieu. On voit vraiment tout l'amour du Père dans son attitude. Alors Jésus l'aime. Il fait preuve de patience, de douceur. Mais Jésus lui dit, il te manque une chose. Et là, je mets Marc puis Matthieu ensemble pour vous donner ça. Il te manque une chose. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus a un jeune homme qui vient vers lui, qui est un chef religieux, un craignant Dieu, quelqu'un qui s'applique à faire le bien, certainement un homme d'une belle réputation parmi les croyants de l'époque. Et voici ce que Jésus fait avec lui. Prends tous tes biens, vends-les, donne-les aux pauvres, puis viens, suis-moi. Pourquoi est-ce que Jésus est tellement exigeant avec lui? Vous remarquez que Jésus n'est pas intéressé à son argent, hein? C'est important. On a souvent l'image que Dieu est intéressé à notre argent. Il ne demande pas qu'il donne son argent à ses disciples ou à son organisation. Il veut seulement qu'il se départisse de ses biens. Pas intéressé à ses biens. Pourquoi Jésus est tellement dur avec lui, tellement exigeant avec lui? Vends tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres, puis viens et suis-moi. Est-ce que Jésus demande ça à tous ses disciples? Est-ce que c'est un standard pour être chrétien, pour marcher à la suite de Jésus-Christ? Vendre tous mes biens, donner l'argent aux pauvres, pour pouvoir suivre Jésus ensuite. Est-ce qu'il faut absolument vendre tout ce que nous possédons? Est-ce qu'il nous faut faire vœu de pauvreté? Clairement non, c'est clair dans les Écritures. Peut-être que vous pouvez vous rappeler de l'histoire de Zachée. Ceux qui sont familiers avec les Évangiles, Zachée était un publicain. Un publicain, c'est un collecteur d'impôts. Dans ce contexte-là, il ne collectait pas des impôts pour les autorités juives, il collectait des impôts pour Rome, puisqu'Israël était sous l'Empire romain à ce moment-là. Donc, un juif qui collecte des impôts aux juifs pour Rome, excusez-moi d'être grossier, mais c'est un salaud. Et en plus de cela, il a toute l'attitude pour extorquer de l'argent. Ce qui est important pour ses patrons, c'est qu'il rapporte telle cote. Après ça, tu peux demander ce que tu veux. Arrange-toi pour nous remettre ce que tu nous dois. Prends ton salaire sur la différence. Ça faisait des moyens voleurs, honnêtement. Souvent, ça faisait des méchants voleurs, haïs par les gens de leur peuple. Zachée est un publicain, un percepteur d'impôts. Mais après avoir entendu les enseignements de Jésus, écoutez bien, c'est ce qu'il nous est rapporté dans Luc 19. Zachée dit à Jésus, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de tous mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Zachée, un homme tordu, un publicain, un abuseur, donne la moitié de ses biens aux pauvres, et Jésus dit, c'est bien un fils d'Abraham, quelqu'un qui est de la foi d'Abraham. Le salut est entré dans cette maison. Un homme religieux, un homme bien, un homme droit, Jésus lui dit, prends tous tes biens, pas la moitié, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça avec lui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je veux dire, c'est évident maintenant que tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ ne sont pas appelés à donner tous leurs biens. Lorsqu'on continue à lire le récit du Nouveau Testament, on lit les lettres de Paul, on lit le livre des Actes, il y avait plusieurs chrétiens qui étaient des gens très en moyen, Paul ne s'est pas mis à enseigner que tous les chrétiens devaient donner tous leurs biens s'ils voulaient. Tout homme devait donner tous ses biens s'il voulait devenir chrétien. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec ce jeune homme riche? Qu'est-ce que Jésus veut démontrer ici? Pourquoi être tellement exigeant avec ce jeune homme? Et pourtant, Marc nous dit que Jésus l'aima. Je laisse cette question-là de côté un instant, d'accord? Pour répondre à une autre question que plusieurs d'entre vous avaient probablement déjà à l'esprit, puis on va revenir sur celle-là après. Parce que lorsqu'on entend Jésus parler, on peut se demander qu'est-ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit « si tu veux être parfait ». Regardez le verset 21, Jésus lui dit « si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes ». Si on prend le mot « parfait » dans le sens que nous utilisons, donnerions. À la limite, j'ai même le goût de dire que les gens parfaits sont plates. Mais ce serait une grossière erreur de le prendre dans ce sens-là. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire ici du tout. Lorsque Jésus lui dit « si tu veux être parfait », il est en train de donner un synonyme pour « si tu veux être sauvé ». Il aurait tout aussi bien pu lui dire « si tu veux être sauvé, si tu veux avoir la vie éternelle ». Dans ce contexte, c'est un synonyme du salut qui nous est donné ici. Rappelez-vous la question du jeune homme. Sa question, c'était « que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Lorsque le jeune homme s'en va, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ce jeune homme est reparti ce jour-là sans avoir l'assurance de la vie éternelle, d'entrer dans le royaume des cieux. » Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus a déjà utilisé le mot « parfait » dans un contexte similaire. On trouve ça dans Matthieu 5. Je vous lis le passage, Matthieu 5, 44 et suivant, je vous lis ça. Jésus dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous, les publicains? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? En conclusion, Jésus dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Jésus n'est pas en train de dire ici, soyez sans péché. Vous devez absolument ne plus jamais pécher, atteindre la perfection absolue. Jésus est en train de dire parfait dans le sens de complet, d'entier, comme Dieu. Soyez à l'exemple de Dieu. Soyez complet dans votre amour. Ne vous satisfaisez pas d'aimer comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu pourrait aimer ceux qui lui font du bien. Non, ressemblez à Dieu. Soyez complètement comme Dieu. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous font du mal. Alors, vous ressemblerez à votre Père qui est dans les cieux. C'est dans ce sens-là qu'il emploie cela. Soyez complet. Et c'est ce que Jésus veut dire à ce jeune homme ici. Si tu veux être vraiment certain d'avoir la vie éternelle, si tu veux vraiment me suivre, si tu veux vraiment avoir la vie éternelle, voici ce qu'il te reste à faire. Vends tout, donne l'argent aux pauvres, puis viens, suis-moi. Alors, tu seras parfait. Entier dans ta foi, complet comme disciple de Jésus-Christ. C'est dans ce sens-là que Jésus emploie le terme parfait. Ce n'est pas une option. Le jeune homme riche est parti sans l'assurance de son salut, avec une réponse décevante pour sa question. Et Jésus a dit, ça va être vraiment difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Cette perfection que Jésus lui présente n'est pas optionnelle. C'est le salut, c'est ressembler à Dieu. Et c'est ceux qui ressemblent à Dieu qui vont aller au ciel avec Dieu. Maintenant, je reviens à la question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Jésus demande à ce jeune homme précisément de vendre tous ses biens avant de le suivre? Il n'a pas fait ça avec Zachée. Il n'a pas fait ça avec tous ses disciples. Pourquoi est-ce que Jésus prend le temps d'être si exigeant avec ce jeune homme qu'il trouvait quand même sympathique? Et c'est peut-être la question la plus importante pour comprendre le passage ici. Jésus n'est pas intéressé à ses biens, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, si ça vous empêche d'écouter ce que je suis en train de dire ce matin parce que Vous êtes dans une église, puis vous dites, c'est sûr, on le sait, les églises qui veulent, c'est ton argent. Jésus ne voulait pas son argent. Il voulait simplement qu'il s'en départisse de son argent, qu'il le donne aux pauvres. C'est intéressant, si je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il faut être familier avec les textes du Nouveau Testament peut-être pour l'avoir remarqué, mais Jésus n'a pas mentionné le premier commandement. Avez-vous remarqué ça? Lorsqu'il a donné la liste des commandements, il n'a jamais mentionné le premier commandement. Vous savez, selon Jésus, il y a deux commandements, un premier, un deuxième, qui résument toutes les Écritures. Fais ça, puis tu honores toute la parole de Dieu. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Premier commandement. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il parle du deuxième commandement ici, mais il ne parle pas du premier. C'est intriguant, hein? Comment ça se fait qu'il ne présente pas ça à ce jeune homme? Moi, je pense que Jésus est en train de rendre le premier commandement très concret aux yeux de ce jeune homme. Je pense que ce que Jésus est en train de faire ici, c'est qu'il est en train d'aider ce jeune homme à découvrir son cœur. Parce que ce jeune homme ne se serait jamais avoué à lui-même qu'il n'était pas prêt à obéir au premier commandement. Il s'était certainement convaincu à ce point-ci, avec tout ce qu'il faisait, qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Et je pense que tout ce que Jésus fait ici, c'est que de manière très concrète, il va lui dévoiler son cœur pour lui montrer qu'il n'est pas prêt encore à ce moment-ci à suivre le premier commandement, car il a un autre Dieu dans sa vie. Il a un autre Dieu dans sa vie, ce sont ses biens matériels qu'il aime plus que Dieu. Voyez-vous, d'une part, il y a le premier commandement. Le premier commandement dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, sans partage, sans aucune idole, qui vienne prendre la place de Dieu dans notre cœur. D'une part, il y a ça, le premier commandement, obéir. D'autre part, vous avez le Fils de Dieu qui est l'image même de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous qui est ici. Le premier commandement, Jésus-Christ. Mais dans ce passage, aimer Jésus-Christ par-dessus tout et le suivre, être prêt à tout abandonner pour suivre Jésus-Christ, c'est obéir au premier commandement. C'est aimer Dieu de tout notre cœur. Dieu avait mis à l'épreuve Abraham. Dieu avait mis à l'épreuve Abraham pour savoir si Abraham aimait son fils Isaac plus que Dieu. Tout un test. Après avoir prié pendant des années pour avoir un fils, Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour savoir si Abraham aimait son fils plus que Dieu. Jésus met ce jeune homme à l'épreuve pour savoir s'il aime plus ses biens matériels que le Fils de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il aurait pu dire ses biens matériels, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Jésus dévoile le cœur de ce jeune homme et lui demande d'être prêt à perdre tous ses biens matériels pour en trouver de plus grands au ciel, afin qu'il puisse vivre vraiment le premier commandement. Aimer Dieu de tout son cœur en suivant Jésus-Christ, sans aucune entrave, sans aucune idole dans son cœur. Aimer quoi que ce soit ou qui que ce soit plus que Jésus-Christ, c'est désobéir au premier commandement. Et ça nous en dit long sur la personne de Jésus-Christ, mes amis. Quand j'étais petit, j'entendais les chrétiens qui disaient « Jésus, Jésus, Jésus ». J'étais tanné. Je ne trouvais pas beau ce nom-là. Jésus, Jésus. Aimer qui que ce soit ou quoi que ce soit plus que Jésus-Christ, c'est désobéir au premier commandement. Parce que Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et il nous faut être prêts à le suivre et à l'aimer plus que tout autre. Sans ça, nous ne sommes pas dignes d'être appelés ses disciples. Il est celui de qui le Père céleste a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père et le Fils sont un. Aimer Jésus et le suivre, c'est aimer Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre chemin pour être sauvé que Jésus-Christ. C'est pour ça que tous les autres prophètes que vous rencontrerez dans d'autres religions ne pourront pas vous apporter le salut. Voyez-vous, le christianisme n'est pas une religion où tu fais tes devoirs religieux le dimanche matin entre telle heure et telle heure, puis après ça, le reste de la semaine, tu vas faire ce que tu aimes. Nous sommes tous naturellement des êtres religieux. Religieux dans le sens qu'on voudrait que ça fonctionne comme ça. Dans le fond, le jeune homme riche vient et pose une question. Dis-moi, c'est quoi l'autre affaire qu'il faut que je mette sur mon checklist? Après ça, je vais pouvoir aller compter mes sous, faire ce que j'aime. C'est pas un peu ça qu'il fait? Et naturellement, nous sommes tous comme cela. Nous voudrions trouver une religion qui nous permet, de telle heure à telle heure, de dire... Je vais à l'église, c'est fait. OK, là, on va aller s'amuser. Bon, le pasteur, il a sorti dans cette église-là des signets de lecture de la Bible, puis il nous parle de ça souvent, fait que là, c'est comme, c'est un fardeau, tu sais, puis c'est correct, je vais commencer à lire ma Bible, je vais faire des petites coches sur les petites cases. Puis après ça, je vais faire ce qui me tente. Ça a l'air, en plus, dans cette église-là, qu'il n'arrête pas de nous parler de petits groupes, fait que je pense qu'il va falloir que je donne mon mercredi soir un jour si je veux être parfait. Mais après ça, je vais faire ce qui me tente. C'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça le christianisme parce que ce n'est pas ça que Jésus a fait. Jésus n'est pas venu accomplir ses devoirs envers son Père pour après retourner au ciel faire ce qui lui plaît le plus. Jésus-Christ est venu sur cette terre, mourir sur cette croix, verser son sang par amour pour nous. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le christianisme, c'est ça. C'est répondre à cette relation passionnelle que Jésus-Christ a accomplie sur la croix pour nous. Jésus-Christ est venu mourir sur cette croix pour nos péchés, afin que nous soyons avec lui pour l'éternité. C'est une relation d'amour, c'est une relation passionnelle qui laisse de place pour aucune autre idole. Il n'y a pas de plus grand plaisir, de bien plus précieux, de personne plus précieuse à celui qui marche avec Jésus-Christ que Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Et c'est ça le christianisme. C'est entrer dans une relation passionnelle avec Dieu, où je ne tolérerai de place pour aucun autre Dieu dans ma vie et dans mon cœur. C'était comme ça dans l'Ancien Testament avant que Jésus vienne. Aucune idole, aucun Dieu dans votre cœur si vous voulez servir l'Éternel. Mais Dieu n'avait pas encore fait sa plus grande déclaration d'amour. Et Dieu l'a fait lorsque Jésus est venu sur la terre mourir sur cette croix. Ça a été la plus grande déclaration d'amour que vous entendrez jamais dans votre vie. Et suivre Jésus, c'est faire de lui l'amour de notre vie. Tu sais, lorsque tu tombes en amour avec une fille, et là, tu commences à la regarder et tu dis, « Wow, il y en a une couple qui se sont mariés cet été. Hey, pour la vie. » Si cette fille-là percevait que c'est le fun d'être avec elle, mais dans le fond, tu attends juste que ça finisse pour aller faire d'autres choses. C'est comme, c'est poche, hein? Aïe, il faut vraiment qu'elle soit mal prise pour te marier, mon gars. C'est ça la relation avec Christ. Et ce jeune homme-là avait un autre Dieu dans sa vie, c'était ses biens matériels. Jésus n'a pas demandé à tout le monde de se départir de ses biens. Il faut croire que Zachée, ce n'était plus une idole dans sa vie. Et en disant, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens, puis je vais rendre le quadruple à tous ceux à qui j'ai volé, Zachée était en train de déclarer, voici, cette idole-là vient de débarquer de ma vie. C'est Dieu, mon Dieu. C'est Dieu la passion de ma vie. Jésus ne demande pas ça à tout le monde. Mais Jésus demande une chose à tout le monde. À tous ceux qui veulent être disciples de Jésus-Christ. D'être prêts à tout abandonner pour s'assurer d'avoir jamais personne, ni quoi que ce soit, qui vienne prendre la place de Christ dans nos cœurs. Et c'est pour ça que Jésus peut dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre Jésus et d'autres divinités dans notre système de croyance. C'est pour ça que je ne peux pas dire que je suis chrétien si je crois que Allah dit la vérité ou que Mahomet a enseigné la vérité. Parce qu'il y en a un seul qui est venu mourir sur cette croix pour nos péchés. Et il désire une relation sans partage. Ni avec aucun prophète, ni avec aucune autre religion, ni avec aucun bien, ni avec aucune autre personne. Si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça ressemble pas mal au premier commandement, moi, je trouve. Mais ce jeune homme aimait ses biens plus que Dieu. En fait, en partant, ce qu'il a dit à Dieu, c'est « Tu peux tout me demander, Dieu. Tu pourras me demander n'importe quoi, je vais le faire pour toi, mais pas mes biens matériels. Je suis prêt à passer tous les tests. Dis-moi le commandement qui me manque, là. Mais pas celui-là. » Jamais il ne se serait avoué à lui-même qu'il aimait ses richesses plus que Dieu. Si Jésus n'avait pas placé ce test devant lui. Il a fallu que Jésus lui demande de les abandonner pour que son cœur soit dévoilé. C'était un bon gars à qui il ne manquait que Jésus. Vous avez plein de bons gars, plein de bonnes filles au travail autour de vous. Pourquoi vous essayeriez pas ça la prochaine fois? Vous savez, des fois, on commence à parler avec un ami, puis tableau, c'est tellement quelqu'un qui a de l'allure, que tu es là, puis tu essaies comme... Non, non, mais je suis sûr, je peux trouver un péché pour lui montrer qu'il est pécheur. Tu sais, je veux dire, on a toutes des histoires cachées, puis c'est juste que je ne sais pas. Essayez ça la prochaine fois. Dans le fond, il te manque juste Jésus. Il te manque juste Jésus. Je te regarde, là, puis il manque une chose. Aime Jésus plus que tout sur la terre, plus que ta vie, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que ton travail, plus que tes ambitions, plus que tes biens. Il te manque juste Jésus. C'était un bon gars à qui il ne manquait que Jésus-Christ. Et il n'a pas pu avoir Jésus dans sa vie parce qu'il avait un autre Dieu dans sa vie, c'était ses biens matériels. Pourtant, Jésus lui offrait tellement plus de richesse, tellement plus de paix, tellement plus de bonheur. Dans 2 semaines, on continue ce passage-là et Jésus continue à répondre à la question des disciples. « Oui, mais qu'est-ce que tu nous offres de plus? » Tellement plus que cela. C'est rien, abandonner tout ça pour suivre Jésus. C'est payant, dans tous les sens du terme. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner s'il te le demande pour le suivre? Peut-être qu'il ne te le demandera pas. Peut-être qu'il te le demandera. C'est sûr qu'il va y avoir des épreuves puis des tests où Jésus va tester cela. Jésus lui-même a été éprouvé avec ses 40 jours dans le désert. Vous allez passer au test, vous aussi et moi aussi. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus-Christ, à tout abandonner s'il te le demande pour le suivre? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu aimes Jésus-Christ plus que tout ici-bas? Si ce n'est pas le cas, probablement que ça explique la tristesse dans ta vie, le manque de joie dans ton cœur. Ce jeune homme-là est parti triste. Il est parti triste parce que Jésus n'était pas suffisant pour lui. Est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qui t'empêche de suivre parfaitement, complètement Jésus-Christ? Quelque chose qui prend trop de place dans ton cœur, qui prend la place de Dieu dans ton cœur, quelque chose que tu n'es pas prêt à perdre s'il le faut. Tout Seigneur sauf. Pour ce jeune homme, il s'agissait de ses biens matériels. Tout Seigneur, mais pas mes biens matériels. Est-ce que tu es comme lui? Parce qu'on est dans le bon pays pour être comme ce jeune homme. Des bons gars, des bonnes filles qui ne voudraient juste pas que Jésus leur demande tous leurs biens matériels. Quand tu as rien, un peu, c'est satisfaisant. Quand tu as beaucoup, c'est jamais satisfaisant. Ta poursuite du confort matériel t'empêcherait-elle de suivre Jésus-Christ, de le servir à fond, entièrement? De te donner pour lui. Est-ce que les tracas financiers prennent la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce que ta retraite, ton fonds de pension, tes REER, es-tu prêt à tout laisser aller tes REER, ton fonds de pension, si Dieu le permet, pour avancer par la foi? C'est sage de coller. Mais si Dieu me demandait de faire un pas de foi, es-tu prêt à le faire? Ah, combien de choses on cache derrière des principes de sagesse. Hein? On est sage. Soyez fou pour Christ. Parce que lui, il a été fou de vous jusqu'à mourir sur la croix. Est-ce que ce sont tes rêves, tes ambitions qui prennent trop de place dans ton cœur et cela t'empêche de vivre pour Dieu? Ça t'empêche d'avoir des ambitions pour l'œuvre de Dieu, parce que les tiennes sont plus importantes que d'avoir des rêves et des ambitions pour le royaume de Dieu. Tes ambitions personnelles prennent-elles trop de place? Est-ce que ce serait l'amour? Trouver l'amour de ta vie. Donne-moi l'amour de ma vie, Seigneur, puis je vais te servir. Mais Jésus dit, « Oh, mais moi, je veux être l'amour de ta vie. » Moi, je suis mort sur la croix. Il n'y a pas un gars qui va faire ça pour toi, ma fille. Mais moi, je l'ai fait. Je veux être l'amour de ta vie. Est-ce que c'est ton repos? Est-ce que c'est ton repos? Tu travailles comme un déchaîné toute la semaine. Tu es impliqué dans des affaires. Mais le moment précieux de la semaine que tu attends, c'est quand tu t'en vas t'écraser devant ton film pour écouter, devant ta télé pour écouter un bon film pendant 2 heures, puis enfin me reposer. Jésus dit, c'est moi ton repos. Ça, c'est des loisirs. C'est le fun, c'est correct. C'est bon. Un peu. C'est pas ça le repos. Le repos, c'est Jésus-Christ. Le repos, c'est être ici ce matin pour louer Dieu, mettre notre cœur au diapason avec Dieu, écouter sa parole, écouter son esprit nous parler, aller vers des frères, des sœurs qui ont des besoins, écouter ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. C'est ça le repos. Amen. Mais est-ce que ton petit temps de repos, à la fin de la journée, que tu attends, est plus désirable à tes yeux que d'aller vers ton Dieu et l'adorer? Comme David qui désirait plus que tout être dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu pour l'adorer. Est-ce que ce serait ça l'idole dans ta vie qui t'empêche de le servir? Jésus-Christ t'offre plus que cela. Mais si tu as une idole actuellement dans ta vie, il se peut très bien que tu vives le même genre de tristesse que ce jeune homme. Parce que la joie, la paix et l'abondance se trouvent auprès de Jésus-Christ lorsque tout est en ordre. Si tu n'as jamais fait le pas de suivre Jésus-Christ, de dire une fois dans ta vie, dans la prière à Christ, « Seigneur Jésus, je veux que tu prennes toute la place dans ma vie. Je veux que tu occupes toute la place dans ma vie. Je veux te suivre. Montre-moi ce qui m'empêche de te suivre, Seigneur, je te donne ma vie parce que tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. » Est-ce que tu veux prendre cette décision aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit « Aujourd'hui est le jour du salut. » Ce jeune homme est parti le cœur triste. Tu peux partir le cœur joyeux, libéré, en paix avec Dieu, rempli d'espérance. Si tu veux prendre cette décision, accroche un frère, une sœur après. Tout simplement dans la prière cet après-midi, retire-toi chez toi, va dans la prière, dis-le à Christ, Jésus, je veux te suivre. Montre-moi s'il y a des choses qui gênent, moi je veux te suivre. Et tu entreras dans le royaume des cieux. Et tu auras la vie éternelle et des richesses incomparables à tout ce que tu as pu perdre en suivant Jésus-Christ. Et d'autre part, si comme moi, vous avez donné votre vie à Christ, ça fait 20 ans maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus. Un soir, une veillée de Noël, chez mon père, quelques instants après que tout le monde soit sorti du salon où on avait échangé nos cadeaux, j'ai fondu en larmes. Il n'y avait pas un chrétien là, ce soir-là. Mais moi, j'ai fondu en larmes puis j'ai dit, Jésus, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Prends tout, tout, tout. Je veux te suivre. Il n'y en a plus de bataille. Il n'y en a plus de Dieu dans ma vie. Scrape toutes les idoles, Seigneur. Je veux te suivre. Mais vous savez quoi? Les années passent et Jésus nous dit chaque jour se charger de notre croix. Alors peut-être que depuis quelque temps, tu as perdu ta joie. Tu as perdu la joie de ton salut. Il y a des bonnes raisons pour être triste dans la foi. Hein? Quand tu perds quelqu'un, quand tu traverses un deuil, quand tu as quelqu'un qui vit des épreuves, c'est un bon temps pour être triste. Mais peut-être que ce n'est pas ça dans ton cas. C'est une tristesse, une joie qui est perdue de ton salut parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est venu prendre la place de Christ dans ta vie et ça t'empêche de suivre Jésus à fond. D'être toujours disponible pour dire, « OK, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » On fonce. Dis-moi le bien que tu veux que je fasse en ton nom. Il n'y a pas de limite pour moi, Seigneur. Est-ce que ça se peut que tu aies perdu la joie de ton salut depuis un bout de temps? Parce qu'il y a une idole, une personne, une chose, des ambitions, des rêves qui prennent la place de Christ. Et ça t'empêche de servir Christ à fond, d'avoir cette relation passionnelle avec lui qu'il veut avoir avec toi. Si c'est le cas, accroche un frère ou une sœur après le service. Dis-lui, j'ai besoin d'aller prier avec toi. Va dans la prière avec lui, avec elle, puis confesse au Seigneur. Seigneur, j'ai cette idole qui est là, mais aujourd'hui, j'y renonce, Seigneur, parce que ça me prive de ma joie. Je veux personne de plus précieux à mes yeux que toi, Jésus. Et Christ va vous bénir abondamment. Quand vous allez venir louer le Seigneur le dimanche matin, quand vous allez revenir dimanche matin prochain pour prendre le repas du Seigneur, vous allez dire, Jésus, tu es toute ma vie. Tu es toute ma vie. On va prier ensemble. Oh Seigneur Jésus, cette semaine, tu m'as bouleversé encore en étudiant ce passage. Et j'ai confessé moi-même, Seigneur, moi aussi j'ai confessé devant toi. Les choses qui étaient dans le chemin, qui étaient dans les jambes, qui me privait de ma joie dans mon service. Mais Seigneur Jésus, tu as donné ta vie en sacrifice pour moi, ce qu'aucun autre prophète, aucune autre religion ne peut offrir. Toi, tu l'as fait, Jésus. Et je veux te suivre aujourd'hui, Jésus-Christ. Si tous, si tout le monde, si mes proches t'abandonnaient, Seigneur, je te suivrai, Jésus. Si tu m'enlèves la santé, si tu m'enlèves mes biens, si tu me demandes de les donner, Seigneur, je te suivrai, Jésus. Mes enfants sont à toi, Seigneur. Mon épouse est à toi. Mes rêves sont à toi. Mes passions sont à toi. Mon temps est à toi. Mes biens sont à toi, Seigneur. Tu es mon repos, ma seule richesse, tout mon bien, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.